Bonjour, vous m'entendez? Alors, comme Robert a dit, je m'appelle Fabrice, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le mari de Sophia qui est là et le papa des petits Caleb qui dort. Il y a toute ma famille qui est là. Nous habitons à Tintignac et nous avons un groupe de prière. Nous nous réunissons un vendredi sur deux. Donc, si vous habitez dans cette région et que vous n'avez pas encore de groupe de prière, c'est l'occasion de vous inviter. Venez nombreux, on passe vraiment des très beaux moments. Alors, mon thème aujourd'hui s'intitule « J'ai un père ». Aujourd'hui, ce matin, on a entendu des bons chants, en fait, qui sont dans la même direction que mon message d'aujourd'hui. On a entendu que Dieu est notre père, que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, mon message, c'est aussi mon témoignage de ce que j'ai vécu, en fait. Comment j'ai saisi une parole de Dieu et que cette parole, en fait, et m'a guéri d'une blessure que j'avais depuis longtemps. Dans les Proverbes 4, verset 20, la parole de Dieu dit « C'est lui qui reçoit la parole de Dieu et lui apporte la vie et la guérison à tout son corps. » Donc cette parole, je l'ai reçue au moment où j'en avais besoin et cette parole est venue me guérir. Donc je prie vraiment ce matin que si vous êtes dans la même situation là où j'étais, que vraiment la parole de Dieu puisse vous guérir ce matin. Amen. Alors le verset qu'on va voir, c'est le verset central, c'est ce verset Psaume 68, verset 5. On va les lire. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans la demeure de sa sainteté. Dans d'autres versions, on dit dans sa sainte demeure. Mais l'idée ici, c'est que notre Dieu est saint. Donc ce verset, en fait, moi, quand je le lis, je vois deux parties. Il y a la partie où on parle de Dieu comme le père des orphelins. Et deuxième partie, on parle de Dieu comme le défenseur de veuves. Donc aujourd'hui, on va voir la première partie de Dieu en tant que père des orphelins. Peut-être l'autre partie, ça pourrait faire partie de notre message. Alors ce verset, Dieu le père des orphelins, à la base, orphelin, première définition de orphelin, donc c'est la personne qui a son père décédé. Mais quand on regarde dans la Bible, en fait, ça veut dire aussi sans père. Et aujourd'hui, dans notre génération, dans notre société, il y a plusieurs situations qui font qu'il y a des enfants, même des personnes qui se retrouvent en fait sans père. Donc aujourd'hui, on a soit le père qui est décédé, on a soit les parents qui sont séparés, on a le père qui est resté dans le pays d'origine. On attend, il y a beaucoup de pays où il y a la guerre, et le papa décide d'envoyer toute sa famille, lui, rester là-bas. Du coup, les enfants peuvent grandir sans père. On a des enfants qui grandissent seuls, sans père, parce que leur papa est en prison. Et aujourd'hui, on a un autre phénomène dans notre société, c'est des familles homoparentales. Ça veut dire que c'est des enfants qui vont être adoptés par un couple de deux femmes. Du coup, les parents vont grandir sans père. Donc, je pense que ce verset, en fait, s'adresse vraiment à toute personne qui est sans père. Peu importe les raisons, c'est vraiment le père des orphelins, le père de tous qui n'ont pas de père, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Alors, pour commencer, en fait, je vais vous faire un court témoignage sur comment j'ai grandi sans mon père. J'ai dit sans repère, parce que quand un garçon grandit sans père, il est sans repère. Mais avant de commencer, en fait, ce que je voulais quand même remercier Dieu pour ma mère, parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire en tant qu'une mère pour nous élever, en fait. Donc si j'ai dit que c'était sans repère, c'est vraiment, là je vais dire sans repère d'homme, parce que ma mère était là, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Alors j'ai grandi sans mon père, parce qu'à l'âge de 7 ans, on a été séparés par mon père, parce que pour des raisons politiques, il a été emprisonné. Donc moi j'avais 7 ans et il est resté en prison pendant 12 ans. Donc toute ma scolarité secondaire, collège et lycée, je ne les voyais que pendant les vacances parce que là où j'ai fait mes études, c'était en internat en fait. Du coup on rentrait pendant les vacances, pendant la période des études, on restait à l'école et on rentrait que les vacances. Et quand j'allais les voir, c'était 15 minutes. Donc ça restait 15 minutes et vraiment pendant 12 ans, ça a été ça, ma relation avec mon père. Et il m'a envoyé des cartes d'anniversaire. Moi, je lui ai envoyé mes bulletins. Donc, c'était ça, ma relation jusqu'à En 2006, quand j'ai fini mon bac, j'ai quitté mon pays. Je suis allé dans un autre pays, en Algérie, pour faire mes études. Et donc, quand je suis parti, c'était en 2006. Et lui, il a été libéré en 2007. Du coup, on n'a pas pu se voir. Et du coup, on a continué à parler par mail, par Internet et par téléphone. Et là, je commençais à être un jeune homme de 19 ans. Et là, je me disais, enfin, mon père est libéré, on va pouvoir parler, avoir une discussion, parce qu'à 19 ans, j'avais besoin de mon père. Sauf que je n'avais pas de bons souvenirs. Enfin, mes souvenirs de lui étaient flous, en fait. Parce qu'on avait séparé quand j'étais encore jeune. Du coup, je ne savais pas. C'était flou. Et à 19 ans, je traversais des moments, je peux dire peut-être des dépressions, je ne comprenais pas, en fait. Je lui avais envoyé une lettre. J'avais vraiment envoyé une lettre pour lui reprocher. En fait, j'avais des souvenirs quand on était petits, quand on faisait des bêtises, on nous frappait. Enfin, des choses pas méchantes. En fait, je lui ai dit ça dans ma lettre. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Et puis, donc, j'ai envoyé ma lettre. Et quand il a reçu la lettre, en fait, il n'était pas content. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais envoyé ça. Et il avait préparé, en fait, du coup, une lettre pour me répondre. Sauf qu'entre-temps, avant qu'il puisse envoyer ma lettre, il y a quelque chose de grave est arrivé. Il est tombé malade. Il y avait un cancer d'estomac. Et du coup, c'est parti trop vite. Quelques mois plus tard, il est décédé. Et du coup, c'était trop difficile pour moi, en fait, parce que quand on m'a annoncé ça, en fait, pendant cette période, je n'avais pas encore reçu sa réponse. Notre relation était froide. Du coup, on n'avait pas pu discuter pour résoudre ce problème. Du coup, quand on m'a annoncé qu'il est décédé, là, j'étais anéanti, en fait. J'étais désespéré parce que je me disais, enfin, j'allais pouvoir avoir mon père. Et là, il était parti pour de bon, en fait. Et là, je suis retourné dans mon pays pour l'enterrement. Et quand j'arrive là-bas aussi, du coup, je voyais ma mère pleurer, ma sœur pleurer. Et là, je me souviens, j'avais des cousins, je ne me souviens pas exactement, mais c'est des hommes de ma famille qui me disaient, maintenant, Fabrice, c'est toi maintenant l'homme de la famille, donc tu ne peux pas pleurer. Ils m'ont dit, il va falloir que tu sois fort pour ta mère, il va falloir que tu sois fort pour ta sœur, tu ne peux pas pleurer. Et là, moi, j'étais là, je me suis dit, j'ai suivi les conseils, du coup, pendant toute la période d'enterrement, je n'ai pas pleuré. J'ai gardé ça parce que je me disais, voilà, c'est moi l'homme, maintenant je ne peux pas pleurer, sinon ma mère va pleurer, tout le monde va pleurer. Et après l'enterrement, je suis retourné en Algérie pour finir mes études. Mais depuis ce temps-là, j'étais pas bien. Je ne parlais jamais de mon père parce que chaque fois que je pensais à lui, toutes les larmes que je ne pouvais pas pleurer pendant l'enterrement, je pleurais. Chaque fois que je me trouvais seul et que je pensais à lui, je pleurais. Chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur lui, je ne pouvais pas parler parce que j'avais la boule au ventre. Et j'étais triste parce que du coup, il était parti, on était en froid. Et tout ça, ça se mélangeait en fait. Et je continuais à vivre comme ça. Pendant plusieurs années, après j'ai fini mes études en Algérie, je suis venu en France pour faire ma licence. J'ai avancé comme ça. À l'extérieur, j'avais l'air d'un jeune qui réussit parce que mes études, ça fonctionnait bien. Je fais mes études de master à Rennes 1. Après mes études, j'ai pu être embauché. Mais j'avais toujours cette blessure intérieure, en fait. Je ne parlais jamais de mon père. C'était des sujets, il ne fallait pas parler de ça. Chaque fois que je me trouvais seul, je pleurais. Et ça, j'ai su ça plus tard, en fait. Si quelqu'un traverse des moments difficiles, il ne faut pas l'empêcher de pleurer. Parce que si la personne ne pleure pas sur le coup, il va pleurer plus tard et ce n'est pas bon. Donc là, je continuais comme ça, à vivre comme ça. Je vivais ma vie dans le monde, une vie qui n'était pas digne de Dieu. Voilà, j'avais vraiment pas de repères. Et après mes études, j'ai été embauché, en fait, là où j'ai fait mon stage. Sauf que là aussi, dans cette époque-là, il y avait des problèmes administratifs en France parce que les entreprises ne pouvaient pas embaucher des étudiants étrangers. Donc l'entreprise qui m'avait embauché, ils ont été obligés de me licencier aussi. Et là, c'était encore un autre choc. Parce que je croyais qu'enfin, j'avais réussi et là, bam, un autre choc. Mais avant que ça arrive, en fait, peut-être en 2010, je continuais à aller à l'église. Après, je faisais ma vie de jeune du monde. Jusqu'à ce qu'en fait, il y a des jeunes qui m'avaient invité dans leur église protestante. Du coup, j'allais dans leur église protestante. Et plus j'allais dans cette église, plus je sentais que Dieu me demandait de faire un choix. Dieu me disait, tu ne peux pas continuer à venir à l'église et vivre dans le monde. Il va falloir que tu fasses un choix, en fait. Et du coup, c'est en 2010 que j'avais vraiment fait le choix. J'ai dit, OK, Seigneur, j'accepte Je laisse le monde derrière moi et la croix devant moi, comme les chants qu'on chante souvent. Et du coup, cette période qu'on m'a distancié, c'était dans les périodes où je me rapprochais du Seigneur, en fait. Et là, je ne comprenais pas non plus parce que je venais d'accepter le Seigneur. Et je me disais, maintenant, là, ma vie va être bien. Sauf que là encore, bam, choc, on m'a licencié. Sauf que quand on m'a licencié, du coup, j'avais commencé à fréquenter du coup mes amis de l'église. Et ça, ça m'a aidé, en fait. C'est bien quand on traverse des moments difficiles d'avoir des bons amis qui vont prier pour vous, qui vont vous encourager. Parce que si je n'avais pas ces amis-là qui m'ont encouragé, ce n'est pas comment j'allais prendre, en fait, cette situation, en fait. Le fait qu'ils étaient là et priaient pour moi, ça m'a encouragé. Sauf qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je venais d'accepter le Seigneur et bam, j'ai perdu mon travail et je ne comprenais pas. Et là, j'ai perdu mon travail, j'ai rendu mon logement. Je suis resté chez un ami pendant 2 semaines. Je dormais dans son salon sur son canapé. Après un moment donné, je me suis dit, bon, c'est fini la France pour moi. Je retourne chez moi. Du coup, j'ai pris mes sacs. C'était en fin 2011. Je suis retourné chez moi. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, pour résumer, en fait, c'est plus tard que j'ai compris que Dieu ne voulait pas que j'entre dans cette vie active avec ces blessures intérieures, en fait. Il y a des choses que Dieu ne voulait pas que j'aie avant d'avoir résolu les problèmes intérieurs. Parce que cette blessure intérieure, ça, c'était encore là. J'avais accepté le Seigneur, mais la blessure était toujours là, en fait. Et là, du coup, quand je suis retourné chez moi, j'ai trouvé une église parce que j'avais vraiment commencé, j'avais donné ma vie au Seigneur. Et je suis allé dans cette église. Un jour, ils avaient projeté les films courageux. C'est un film qui raconte en fait l'histoire des pères courageux. Et là, quand je regardais ces films, ils parlaient des pères courageux, des pères qui enseignent à leurs enfants la voie du Seigneur, les pères qui prennent soin de leur famille. Et moi, quand je regardais ça, je pleurais parce que je n'avais pas connu ça, en fait. Pendant tous les films, moi, je pleurais parce que je voyais des relations, en fait, ce que Dieu attend d'un père. Et moi, je n'avais pas connu mon père, du coup, je pleurais. Tous les films, je pleurais. Alors que les autres, ils étaient contents de voir les films. Et moi, je pleurais parce que, du coup, tous les souvenirs de mon père sont encore revenus. Il y avait encore des blessures. Et là, à la fin du culte, enfin, du film, du coup, il y avait les prédicateurs qui avaient annoncé cette parole. Le verset, psaume 68, verset 5. Le père des orphelins, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Et là, c'était comme si j'étais seul avec Dieu dans cette salle, en fait. Et là, j'ai reçu cette parole, en fait, vraiment comme si c'était ce jour-là que le Seigneur voulait me délivrer. Et là, j'ai vraiment reçu. Et là, je continue à pleurer, mais cette fois-ci, c'était des larmes de délivrance. Je sentais vraiment, à partir de ce moment-là, que tout le poids du passé était en train de descendre. Je recevais, en fait, cette révélation que Dieu était mon Père. Que depuis tout ce temps-là que je pleurais, que j'avais un Père qui m'aimait. Et là, c'est vraiment, ça a été ma parole qui m'a délivré ce jour-là. Je vais essayer de passer au diapo suivant. Tu peux passer de la fois suivante. Donc c'était ça vraiment ma parole à ce moment-là que j'ai reçu qui est venu me guérir. Mais avant en fait d'arriver là à cette parole, parce qu'il y a tout un processus. La première chose que j'avais fait, c'est que j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie, parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui nous révèle le Père. Aujourd'hui. Pasteur Robert l'a répété. Parce que cette parole, tu peux la lire, mais si tu n'as pas encore reçu vraiment le Seigneur et qu'il vienne te révéler le Père, ça peut passer inaperçu comme parole. Mais la Bible me dit, on va lire en fait, on va lire parce que c'est des paroles vraiment qui m'ont aidé. La Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et cette parole, je l'ai compris quand j'ai reçu cette parole en fait. Si on veut être délivré en fait de ces blessures du passé, la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va venir nous révéler le Père. Amen. L'autre parole, enfin on peut les lire. Hein. On va essayer de lire. Là, j'ai mis juste le verset 12. On va essayer de lire à partir du premier verset. Ça parle aussi de Jésus. Alors, on va les lire. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Alléluia, j'aime bien le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh. Depuis tout ce temps-là, depuis tout ce temps-là que je pleurais, depuis tout ce temps-là que j'avais cette blessure, en fait, ce manteau que j'avais qui était très lourd, mais j'avais un père qui m'aimait, en fait. Et là, Galates 4, verset 6 nous dit, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Alléluia. Le fait qu'on sait qu'on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu cet esprit d'adoption. Et cet esprit crie en nous « Abba, Père ». Alléluia. Et là, j'ai reçu vraiment ce jour-là cette parole. Elle m'a libéré. Elle m'a guéri, complètement guéri. Et depuis ce jour-là, je peux vous parler de mon Père. Avant, mes souvenirs étaient flous. Même aujourd'hui, je n'ai peut-être pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai gardé que des bons souvenirs. Je peux vous parler des cartes qu'il m'a envoyées le jour de mon anniversaire. Avant, je n'arrivais pas à lire ces cartes. Chaque fois que je les ouvrais, je pleurais. Mais aujourd'hui, j'arrive à les lire. Chaque fois que je passe un anniversaire, j'arrive à retrouver mes cartes. Et quand je lis, je dis quand même, mon père m'aimait aussi quand même. Même s'il y avait des choses un peu floues, mais Dieu est venu en fait me guérir. Il est venu éclairer, il est venu tout mettre en ordre en fait. Alléluia. Et là, le Père qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. On va le lire tout à l'heure dans ce verset dans Ésaïe. Et il y a le Père qui nous console par son amour. La dernière fois, le pasteur Robert parlait de la consolation. Moi, à chaque fois, j'avais vraiment cette blessure du passé. Cette blessure du passé. Donc, c'était difficile de voir un Père qui m'aime. Je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a consolé par son amour. Alléluia. Et aujourd'hui, je sais qu'il m'aime. Alléluia. Et là, on peut lire Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Je prie ce matin, Seigneur, que tu viennes guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, ceux qui ont été brisés par le manque de leur père, ceux qui ont été brisés par le décès de leur père, ceux qui ont été brisés par le Père qui est absent, qui est distant, Seigneur, ce matin, je prie qu'il puisse recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, j'aime bien, quand tu as grandi, en fait, tu n'as pas connu l'amour de ton Père. Quand tu lis ces versets, ça a un autre sens, ça a un poids fort. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. » Alléluia. Alléluia, moi ça me fait, quand je vois ça, même si avant peut-être je pouvais marcher comme ça, mais quand je vois que mon Père m'aime, je commence à marcher comme ça. La tête haute parce que je sais que j'ai un Dieu qui m'aime, amen. Et là, notre Dieu j'aime bien parce qu'il est très romantique. En fait, il trouve le moyen de nous parler en fait, de nous communiquer son amour parce que ces versets que je vous partage, c'est des versets qui m'ont consolé en fait. Parce qu'avant j'étais en manque d'amour de mon Père et j'ai trouvé dans cette lettre d'amour, beaucoup, beaucoup de versets, beaucoup de paroles. Notre verset que j'aimerais partager avec vous, c'est Ésaïe 54, verset 10. Il dit, « Même les montagnes, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dis celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » Amen. Amen. Ces paroles, vraiment, elles peuvent consoler. Peuvent vous donner plus confiance en vous parce que c'est un Dieu qui nous aime. Alléluia. Et comme on a dit, on a vu dans 1 Jean verset 12, à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, à tous ceux qui l'ont accepté, Jésus a donné le droit d'être enfant de Dieu. Et peu importe l'origine, peu importe la tribu, peu importe la langue, si vous avez reçu cet esprit d'adoption, vous pouvez crier Abba Père. Et là, je vais demander à l'équipe des louanges, ils vont nous interpréter un chant. qui s'appelle « J'ai un Père céleste ». C'est un chant, vous allez voir, qui va être chanté d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, parce que je voulais vraiment souligner cet aspect où toute langue, toute tribu, toute nation aujourd'hui, tous qui ont reçu cet esprit d'adoption, ils peuvent crier « Abba Père ». Parce que nous avons le même Père. Et le fait que c'est mon Père, le fait que c'est ton Père, ça fait de nous des frères et sœurs. Et là, ça prend sens, en fait. Quand tu sais, tu as reçu cet esprit d'adoption, quand tu appelles la personne qui est à côté de toi, mon frère, ma sœur, ça a du sens parce que nous avons le même Père. Et ce Père, il nous a guéri des blessures du passé. Donc, je promets ce matin que tous ceux qui ont grandi sans leur Père, ils puissent vraiment recevoir cette parole. Je vous rappelle ce verset dans Proverbe 4, verset 20, qui dit que celui qui trouve la parole de Dieu et lui donne la vie et la guérison à son cœur. Seigneur, je prie vraiment ce matin que quelqu'un puisse recevoir cette parole, que quelqu'un puisse être guéri. Seigneur, que ces blessures du passé qui sont là depuis longtemps, peu importe l'âge, que ce soit un jeune ou un moins jeune, Seigneur, ce matin que tu viennes guérir, que tu viennes consoler. Alléluia. Amen. Je me souviens, plusieurs années, j'étais retourné chez moi, chez ma mère au Rwanda, et un jour, j'allais dans une pièce où il rangeait les dossiers. Et là, il y avait des vieux dossiers de mon père. Je commençais à regarder, et là, il y avait un dossier, c'était la lettre que mon père voulait m'envoyer comme réponse. Donc, c'est là que j'ai dit, si ça reste un niveau émotionnel, les choses que Dieu vous a délivrées, ça peut revenir. Et là, je vois la lettre, mais elle était fermée, je n'ai pas ouvert. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ouvre, j'ouvre pas? Et là, je demande à ma mère, est-ce que j'ouvre, j'ouvre pas? Et ma mère, qui est toujours sage, m'a dit, ça, c'est de l'histoire passée, il ne faut pas ouvrir cette lettre. Tu as été délivré, tu n'as pas besoin de savoir ce qui est là. Amen. Donc, si Dieu vous délivre, l'ennemi va vouloir toujours vous amener là où vous étiez. Je pense que c'est Yves qui aime dire ça, que le corps, il a noyé, mais le bourge savait nager. Quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que même si votre passé, Dieu vous a délivré, il faut fuir tout ce qui peut vous rapprocher en fait. Parce que l'ennemi, lui, il est toujours là. Il va essayer de combattre pour vous ramener là où vous étiez. Amen. Donc là, ça change quoi? De savoir que Dieu est votre Père. Parce que ça doit changer quelque chose. Ce n'est pas une expérience émotionnelle ou sentimentale. C'est quelque chose qui doit... Comme l'image qu'on a utilisée aujourd'hui, si tu sais que Dieu est ton Père, juste ça, émotionnellement, c'est comme l'image que Myriam a donnée. Tu es peut-être sur le rocher, mais tu risques de glisser, donc il faut que ça soit plus profond qu'émotionnel. Amen. Il faut que vraiment il y ait des racines, que ça descende en bas et que tu saches que ton Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui est saint aussi. Amen. Et ça, si on avait dit le verset le père des orphelins c'est Dieu, c'est déjà bien. Mais là, le père des orphelins c'est Dieu dans la demeure de sa sainteté. Donc notre Père, il est saint. Et si tu sais ça, ça va changer la façon dont tu vas vivre. Amen. Je me souviens d'un petit garçon qui avait 4 ans à l'époque. Il était parti chez sa grand-mère. Sa grand-mère lui avait demandé de faire quelque chose et l'enfant ne faisait pas très bien. Et la grand-mère commençait à dire, mais toi, tu es un petit garçon, tu ne sais pas faire bien ce qu'on te demande et tout. Elle a commencé à perdre patience avec le petit. Et le petit s'est arrêté. Il a regardé sa grand-mère. Il a dit, mamie, je ne suis pas d'accord avec tes paroles. Il a dit, mais comment tu n'es pas d'accord? L'enfant a dit, mon père m'a dit que je suis un enfant courageux. Mon père m'a dit que je suis un champion. Mon père m'a dit que je peux tout faire. Amen. Et cet enfant, je le regardais, j'ai dit, waouh, si cet enfant de 4 ans, il pouvait s'appuyer sur la parole de son père pour résister contre les tentations de l'extérieur, alors nous, comment on devrait agir face aux tentations, face aux attaques de l'extérieur? Cet enfant, il savait que la parole de son père était plus puissante que tout ce que les autres personnes pouvaient lui dire. Parce que l'enfant a passé du temps avec son père. Et son père l'a encouragé dans ses moments de qualité. Son père passait du temps en train de lui dire, mon fils, c'est vrai que tu as 4 ans, mais tu es encouragé. Tu es un enfant champion, tu es un enfant respectueux. Tu peux faire beaucoup de choses. Et l'enfant, quand il rencontrait les adversités, il se basait sur la parole de son père. Amen. Alors nous avons notre père, nous avons chanté qu'il est puissant, qu'il est plus fort, celui le plus fort. Qu'est-ce qui se passe quand on traverse des moments difficiles? Parce que nous, Dieu nous a laissé sa parole ici. On devrait pouvoir dire encore mieux que cet enfant de 4 ans qui s'appuyait sur la parole de son père. On devrait pouvoir dire, mon père m'a dit. quand vous allez dans une situation, que ce soit au travail, en famille ou autre, quand les gens vont vouloir vous traiter d'une autre façon, vous dire des choses qui sont contraires à ce que votre père vous a dit, vous devez pouvoir les regarder en face, vous dites non, mon père m'a dit. Mais pour savoir ce que votre vous a dit, vous devez passer du temps là-bas, dans la parole. Amen. Et donc le fait de savoir que votre père, c'est un Dieu qui est saint, donc vous allez passer du temps et vous allez apprendre à le connaître. On va lire maintenant ce qui, une fois qu'on a reçu cette parole, une fois qu'on a été, on a reçu cet esprit d'adoption, on a vraiment été lavé, purifié, restauré, guéri, consolé. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Il dit un enfant obéissant ne vous conforme pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Amen. Notre Père, c'est un Dieu saint, et il nous appelle à être saints dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite, ça veut dire partout, quand ça nous arrange moins, en famille, à l'église, au travail, dans toute votre conduite. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'ai prié vraiment pour que le Seigneur puisse venir vous révéler. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, je prie pour vous vraiment que vous puissiez faire ce pas-là, de le recevoir, parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui va vous conduire, vous révéler le Père. Une fois que vous l'avez reçu dans votre vie, il va vous envoyer son esprit, un esprit d'adoption qui va crier « Abba Père ». Amen. Et il va guérir votre blessure du passé. Il va vous consoler. Et après, il va vous apprendre à progresser dans la sainteté. Amen.